Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Les autres.
Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
Geneviève Peterson.
L'enquête thématique sur le suicide qui reprend ses audiences publiques ce matin. On va discuter de la façon dont le système de santé aide réellement les gens aux tendances suicidaires. On se rappelle là, quand même que dans le cadre de cette commission d'enquête-là, on s'attarde au décès de M. Dave Murray qui a été hospitalisé plusieurs fois là, avant de s'enlever la vie le 5 novembre 2019. Est-ce que le système de la santé est outillé réellement pour venir en aide aux personnes qui sont suicidaires? On est avec Gilles Chamberlain qui est psychiatre à l'Institut Philippe Pinel. Docteur Chamberlain, bonjour.
Bonjour.
Bon, premièrement, je pense que c'est important qu'on spécifie que tout le monde est différent là, par rapport à la tendance suicidaire. Les gens qui sont suicidaires ont des facteurs différents, posent pas un risque qui est équivalent. Comment on évalue ça, une personne suicidaire, quand elle se présente ou qu'on la présente, si on veut, en centre hospitalier ou devant quelqu'un qui fait partie du personnel de la santé?
Écoutez, c'est très difficile à évaluer.
Oui.
Il y a plusieurs critères, il y a des échelles, on a des tables, on a des facteurs de risque, on a tout ça. Mais il faut se rappeler une chose, c'est que la personne qui décide de se suicider, c'est qu'elle est tellement souffrante que c'est faut le voir à l'envers, c'est de rester en vie qui est difficile. Et cette personne-là peut ruminer ça depuis très, très longtemps et poser un geste des fois assez réfléchi, dans le sens que ça fait longtemps que la personne est souffrante, elle se dit « je ne peux plus souffrir comme ça ». Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être aidée, ça ne veut pas dire que son raisonnement est juste. Mais si quelqu'un ne se confie pas, c'est très difficile d'aller voir où cette personne-là est rendue dans sa tête. Et il faut pas que les gens de l'entourage se blâment non plus, parce que des fois, les gens vont souffrir en silence, vont le cacher.
Ouais.
Donc, quelqu'un qui est vraiment décidé à mourir, c'est pas inhabituel qu'elle donne à peu près aucun signe. Elle va laisser une lettre et on va être étonné de comment le geste va être assez bien préparé. Il y en a d'autres, c'est exactement le contraire. C'est très, très impulsif. Ils vont avoir consommé quelque chose qui va les rendre encore plus impulsifs. Ils sont souffrants sur le coup d'une peine d'amour, de quelque chose. Ils ont l'impression qu'ils n'ont pas d'avenir et qu'ils vont toujours souffrir comme ça et qu'ils posent un geste impulsif. Fait qu'on a deux cas de figure assez différents. Et dans ces deux cas-là, ces gens-là vont avoir de la difficulté à demander de l'aide. C'est très difficile de composer avec un risque suicidaire parce que il n'y a pas une personne sur 1 000 qui consulte avec des idées suicidaires qui va se suicider. Et fait que là, faut essayer de déterminer comment on va pouvoir aider ces gens-là. On va aider évidemment les gens qui consultent. Et quelqu'un qui est très, très, très décidé, jusqu'à quel point on peut le contraindre à participer, là.
Ouais, mais docteur Chamberlain, j'ai une question, puis elle est délicate un peu ma question. Je veux pas être maladroite, là. Si je suis maladroite, vous me le dites, OK? Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé de parler à des gens qui allaient pas bien, puis la personne me dit, ah, inquiète-toi pas, là, je suis pas une personne qui est suicidaire. T'sais, ça existe-tu? Parce que je pense que tout le monde peut avoir des pensées suicidaires à un moment ou à un autre de sa vie, là, selon la situation. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont justement pas prédisposés, mais qui sont suicidaires, puis d'autres personnes, non?
Bien, moi, je pense que tout le monde, s'il y a un stresseur suffisant, si la personne est dépressive, oui, c'est comme de dire, moi, je vais me faire frapper, puis ma jambe ne cassera pas.
C'est comme, fait que la personne, quand elle me dit ça, faut pas trop. Bon,
non, malheureusement, non, parce que la personne n'est pas rendue là.
Okay.
Elle est souffrante, on minimise pas la souffrance, mais des fois, des gens sont en dépression. Nous, on sait que c'est une dépression d'intensité modérée. On en a déjà vu des plus souffrants que ça.
Okay.
Et la personne, pour elle a atteint le fond du baril. On le sait que ça peut être pire. Il y a des gens qui sont dépressifs, puis c'est un des critères. Ils n'ont pas encore des suicidaires, mais si ça continue, ça va arriver. Des gens qui ont des douleurs, qui souffrent énormément, on leur demande, avez-vous des idées suicidaires? Non. Tant qu'il y a un espoir, il y a une triade là, pour évaluer et qui est qui marche très bien. Là. À partir du moment où les gens n'ont plus d'espoir qu'ils vont aller mieux, qu'ils ont l'impression qu'ils ne pourront pas être aidés et que ça va toujours continuer comme ça. Et là, c'est clair que si on est souffrant, puis on a l'impression qu'on va souffrir toute notre vie, là, on se la pose la question, pourquoi on reste en vie?
C'est vrai.
Puis, pour faire du pouce sur votre idée, il y a un autre critère aussi dont il faut faire attention, c'est les gens disent ma religion m'interdit ça, donc je suis pas suicidaire.
C'est vrai ça, ben oui.
Et ça, encore là, il y a plusieurs actes, gestes suicidaires qui ont été posés par des gens qui voulaient pas être stigmatisés, ils avaient pas le droit de le faire, donc c'est un peu camouflé en accident ou c'est un peu à la frontière des deux. Mm. Oui, ça peut être une limite parce qu'effectivement, dans les statistiques, les gens qui ont pour religion que dans leur région, c'est interdit, se suicide moins. C'est vrai. Mais c'est pas une barrière absolue non plus pour quelqu'un qui est très souffrant.
Il y a du monde qui se présente d'eux-mêmes à l'hôpital ou même chez leur médecin de famille, là, ça peut arriver en urgence. D'autres qui sont amenés en ambulance. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est différent? Puis dans le cas où on décide de garder la personne, ça se passe comment?
Bien, c'est ça. C'est sûr que à partir du moment où la personne veut se faire aider, ouais, c'est plus facile. C'est plus facile parce que là, on a la collaboration de la personne, on va mettre les mesures en place proportionnellement au risque que présente la personne. Il y a quelqu'un qui peut être suicidaire, mais si en plus de ça, par exemple, il est psychotique, il est plus dans la réalité, ouais, il est intoxiqué, c'est clair que là, ça va prendre des mesures plus sérieuses. Quelqu'un qui se présente sur une base volontaire en disant, écoutez, je me fais pas confiance pour cette nuit, pouvez-vous m'aider? C'est toujours plus facile. Donc, habituellement, on va pouvoir convenir de quelque chose avec quelqu'un. Mm. Ça, c'est clair.
Comme un plan, mettons?
Exactement. Okay. Et on va le reviser. Êtes-vous encore d'accord avec ça? On va s'assurer que vous passez une bonne nuit. On va vous faire dormir. On va revoir ça demain matin. On va commencer quelque chose. Et quand les gens adhèrent, il n'y a pas de problème. C'est le problème, c'est quand les gens n'adhèrent pas. Si quelqu'un est amené un peu contre son gré, c'est sûr que, dépendant d'où il est amené, s'il était sur le pont avec une menace de se jeter en bas, ben là, on a plus de latitude. Il a beau nous dire qu'il n'est pas déprimé, puis qu'il fera rien, c'est sûr qu'on est légitimé de l'observer plus longtemps. Quelqu'un qui est amené par un proche volontairement, qui dit, écoutez, je suis venu ici volontairement, là, je vais mieux, je m'aperçois que c'est pas une bonne idée. Malgré tous les indices qu'on peut avoir, ça va être extrêmement difficile de le garder contre son gré.
Puis, bon, ben dans le cas là, que j'évoquais au début, là, M. Dave Murray, par rapport à cette commission d'enquête publique là, sur la thématique du suicide, on sait que M. Murray s'est présenté plusieurs fois à l'hôpital, a reçu son congé, finalement, il est passé à l'acte, malheureusement. Les gens, tu sais, ils voient ça, puis ils disent, mais oui, mais comment ça se peut? Comment ça se peut qu'une personne suicidaire passe au travers des mailles de personnel de la santé qui s'en rendent pas compte puis qui le laisse repartir?
Parce que ça dépend à quel point il voulait s'en aller ou pas.
C'est
parce
ça.
Que, quelqu'un dit « je veux m'en aller », là, pour le garder contre son gré, la première étape pour qu'il y ait un danger grave est immédiat. C'est l'immédiat qui accroche.
Il y a des gens, on s'entend-tu, Dr. Chamberlain, je m'excuse, là, qu'il y a des gens qui savent quoi dire aussi pour se faire relâcher.
Mais absolument, absolument. Et le problème qu'on a souvent, c'est des gens qui vont s'intoxiquer. Quand ils sont intoxiqués, ils sont souffrants, ils sont en sevrage. Mais dès qu'ils vont mieux, là, ils vont dire oui, je suis correct. Ou encore des gens qui sont dans des relations très houleuses. Mm. À partir du moment où il y a une séparation, ils se sentent démunis, ils se sentent vraiment là, ils peuvent pas vivre sans l'autre personne. Si jamais il y a un rapprochement parce que la personne se présente à l'urgence, mais là leur vie vient de changer. Puis c'est vrai que ça va mieux. Mais sauf qu'ils peuvent se séparer le lendemain ou avoir une autre chicane 48 heures après. Puis là, la problématique risque de revenir. Donc oui, les urgences sont malheureusement souvent des portes tournantes parce que les gens décident eux-mêmes de s'en aller puis on n'a pas les moyens de les garder. Des fois, ça peut être le contraire aussi. Dire à quelqu'un, l'urgence, on peut pas le garder indéfiniment non plus si on n'a pas de place à l'étage.
Ouais.
Mais effectivement, si quelqu'un, comme vous dites tantôt, quelqu'un sait quoi dire, si quelqu'un dit les bonnes choses, ça devient extrêmement difficile de le garder contre son gré.
Bon, puis les lacunes, ça serait quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Parce que je vous écoute parler, puis j'ai l'impression que peu importe ce qu'on va faire, c'est plate, un peu comme les féminicides, là, il y a toujours des situations qui vont passer entre les mailles du filet, parce que, puis on s'en est parlé de ça, vous et moi, à plusieurs reprises, l'indice de dangerosité, on pourrait peut-être faire un parallèle avec l'indice suicidaire d'une personne, là, tu peux pas tout anticiper, tu peux pas tout savoir.
Tout à fait. Et on le voit, les hommes se suicident 10 fois plus souvent que les femmes. Et les femmes font 10 fois plus de tentatives suicidaires. Fait qu'on a un rapport de 1 sur 100. Il y a les moyens utilisés qui vont faire une différence, évidemment. Les hommes utilisent des moyens plus drastiques. Mais surtout, les hommes consultent moins. Les hommes consultent moins, les hommes s'ouvrent moins. Et c'est là que le système pourrait être amélioré, indépendamment du système lui-même. Là, si on donnait un peu plus de latitude pour garder les gens contre leur gré, mais là, on brimerait des droits, ça serait difficile. Mais une facilité à consulter, si on dit quelqu'un, ben, va à l'urgence, il passe au triage, il attend en salle d'attente, il va repartir. C'est sûr qu'il va repartir. Quelqu'un qui est souffrant, c'est souffrant de rester en vie. Fait que c'est sûr qu'on n'ira pas attendre. Fait que ça prendrait des choses beaucoup plus directes, un accès plus direct, des lignes téléphoniques qu'il y en a, les gens l'utilisent pas assez.
Des pubs, c'est con à dire, mais je me suis tellement fait parler des pubs sur la violence conjugale, là, des gars qui se sont identifiés au scénario, qui étaient dans la pub, qui se sont dit, aïe, j'ai eu un problème, faut que j'aille chercher de l'aide. Ça marche, ces pubs-là, ça fonctionne.
Oui, ça marche, c'est quelqu'un qui a une prise de conscience par rapport à quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un qui est déprimé au point de vouloir se suicider, je vous dis, c'est quasiment délirant. Pour la personne, okay, elle est convaincue qu'elle s'en sortira jamais. On essaie de lui dire, regardez, vous voyez la vie avec des verres fumés. C'est pas ça, la réalité, là. On peut vous aider. Ça peut aller mieux. On sait juste pas quand. Donnez-nous un peu de temps. Mais les gens sont convaincus qu'ils souffrent et qu'ils vont toujours souffrir. Et chaque matin, rester en vie, c'est difficile. C'est ça qui est vraiment... C'est ça quelqu'un qui va... Puis mieux que ça, pire que ça, oui, dans le raisonnement, pire que ça, c'est que les gens sont convaincus qu'ils sont un fardeau pour leur entourage. Donc,
je m'excuse, là, Dr. Chamberlain, mais il y a aussi des entourages qui désertent, puis on les comprend aussi. Il y a des gens qui sont à bout de ressources, là.
Oui, mais les gens n'ont plus tendance à se culpabiliser et à dire, je suis un fardeau, ma famille serait mieux si j'étais pas là, je nuis à tout le monde. Fait que c'est sûr, quand ils entendent des encouragements de leur famille, ils se disent, ben, c'est parce qu'ils sont fins, mais dans le fond, ils m'endurent, puis si j'étais pas là, ils souffriraient moins. Ils ont tendance à négliger ce que l'entourage va dire.
C'est terrible. Gilles Chamberlain, merci, qui est psychiatre à l'Institut Philippe Pinel. On se parlait notamment de cette enquête publique élargie sur la thématique du suicide. Et comme à chaque fois qu'on parle de ces enjeux-là, j'aime bien rappeler les numéros de téléphone de l'Association québécoise de prévention du suicide, 1-866. Appel si vous vous sentez pas bien. Et aussi, si vous avez quelqu'un près de vous, puis vous dites, mon Dieu, il me semble qu'il file pas, j'aurais besoin d'outils peut-être pour entrer en communication avec lui ou avec elle, on appelle à ce numéro-là, 1-866-APPEL.